Bien, bonjour tout le monde, je suis Rachida Azbouz et il me fait plaisir d'animer cette table ronde et il me fera plaisir d'accompagner le cortège jusqu'au bout puisque je serai également accompagnée du professeur Berger pour faire la synthèse de ces deux journées. Je vais animer cette table ronde qui va se dérouler en trois temps. Dans un premier temps, chacune des conférenciers aura 12 à 13 minutes pour réagir au thème de ce colloque et à la question qui leur est posée. Dans un deuxième temps, les quatre intervenants vont réagir les uns les unes aux autres, donc aux présentations des autres. Il y aura un échange entre eux. Et dans un troisième temps, nous allons passer à la période de questions avec la salle. Avant de vous présenter chacun de mes invités et de leur donner la parole, je peux vous dire que nos invités, malgré leurs différences physiques apparentes, ont plusieurs choses en commun. En commun entre eux et en commun avec vous. Comme vous, ils sont, en leur qualité d'artistes et d'artisans de la langue et de la culture, des passeurs et des médiateurs. Entre eux, ils ont en commun de faire de la prose en connaissance de cause, puisqu'ils ont choisi le métier d'écrivain, donc l'écriture comme métier, et de faire de la prose sans le savoir, puisque comme Obélix, ils sont tombés dans la passion magique de l'interculturalité à la naissance. Ils ne l'ont vraiment pas fait exprès. Alors, ils portent l'interculturalité en eux, puisque chacun, on le verra dans leur biographie, de par ses origines ou de par ses choix d'écriture, pratiquer le dialogue interculturel. Nous avons procédé en accordant la priorité à la personne qui est en situation minoritaire, donc à Rodney Saint-Éloi, qui va ouvrir les hostilités. Alors, je vais vous le présenter rapidement pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Monsieur Saint-Éloi, que nous remercions vivement parce qu'il a accepté à la dernière minute de venir participer à cette table ronde. Alors, on remercie tous les conférenciers, mais je pense que Tassia et Rodney, on les remercie plus spécifiquement. Alors, Rodney est né en Haïti, à Cavaillon. Il partage son temps entre l'écriture et l'édition. Il est écrivain, professeur de littérature, donc il a quelque chose en commun avec vous. Activiste culturel, il a fondé en 1991 à Port-au-Prince les éditions Mémoire et en 2001 à Montréal les éditions Mémoire d'Encrier, qui publie de nombreux ouvrages d'auteurs haïtiens, caribéens et africains. Il ne m'a pas demandé de faire la promotion de son livre, mais je vous le montre quand même. Haïti. Alors, 35 secondes et mon pays à reconstruire. Alors, Rodney, vous avez 12 à 13 minutes.
Merci, je ne sais pas si... merci bien, merci beaucoup. En fait, effectivement, je suis toujours dans ce dialogue qui n'est pas imposé, qui est quelque chose de, je crois, de naturel. Et parce que je suis d'abord en tant qu'haïtien dans une situation schizophrénique, donc entre deux langues, le créole et le français. Des fois je pense que je parle le français et puis c'est le créole que je parle, et tous les mots sont bien du français. Des fois le mot est français et la chose elle est créole, donc on est toujours dans une dynamique schizophrénique. Donc on est toujours en dialogue avec deux langues, en dialogue avec deux cultures, et puis en dialogue aussi avec d'autres pays, parce que en Haïti parce qu'on regarde beaucoup, et puis on regarde toujours de l'autre côté de la mer. Donc on se représente toujours le monde. C'est pratiquement un métier de quand on est haïtien. On est sur 27 700 km² et puis on recrée le monde. On recrée le monde à sa propre mesure. Et j'avais pas encore 7 ans et puis je me suis trouvé à recréer Montréal, à recréer le Québec. Et puis je savais même pas si j'allais être invité ici. Comme on vous a dit ça, très récemment, j'ai appris que j'allais être invité. Et puis, il y avait déjà 7 ans, j'avais eu une représentation du Québec, du Canada. Je vais vous lire ça et vous allez voir que je ne suis pas un menteur. Donc, Contita, c'est ma grand-mère, ne sait pas trop comment son nom a été transformé. Les gens disent Madame comme si cela faisait partie de son vrai nom. Avant, elle s'appelait Contita Fortuné Saint-Éloi. Sa fille Alita Saint-Éloi, ma tante, après les études d'infirmière à Port-au-Prince en 1970, était partie travailler à Montréal. En ce temps-là, les formalités étaient simples. Il n'y avait pas de visa à solliciter. Le visiteur achetait simplement son billet d'avion. Une année après, ma grand-mère avait débarqué à Montréal, puis Mertine Ornelsi, son homme, était venu. Je ne sais pas pourquoi, j'imaginais naïvement à l'époque le Québec, un grand pays blanc, avec des femmes, des hommes également blancs, des cabanes creusées dans des grottes avec des cheminées qui faisaient de longues traînées de fumée dans le ciel. Les villes ressemblaient à des pays de poupées exhalant une forte odeur de poudre pour bébés. Les habitants, des bûcherons pour la plupart, vivaient dans des igloos et passaient leur temps à courir les bois avec des chiens. Ils mangeaient des pommes de terre, de la viande fumée, des œufs et du sirop d'érable à tous les repas. Ils parlaient une langue étrange, mélangeant le français, le créole et l'anglais. Les Indiens étaient tout ce qu'il y avait de plus divertissant. Ils circulaient nus en hiver avec des plumes sur leur tête, leurs arcs et leurs flèches. Quand les étrangers atteignaient le fleuve Saint-Laurent, les habitants dansaient aux petites heures du matin pour saluer l'heureux événement. La bonne nouvelle est qu'on ne manquait jamais de nourriture ni d'argent. Le lait et l'eau coulaient du robinet. On offrait de l'argent aux gens du troisième âge pour qu'ils ne travaillent pas. Pour nous autres nègres d'Haïti, si le Québec n'était pas le paradis n'était pas trop loin. Vous voyez, donc, j'avais peut-être 7-8 ans, donc voilà comment j'imaginais le Québec. Ceci dit que, en fait, cette représentation de l'autre, cette altérité, c'est-à-dire on est toujours acculé au dialogue interculturel, c'est devenu même une nécessité, puisque il y a le fait qu'on vit dans un espace qui est un espace étriqué, qu'on vit dans un espace où le premier rêve de l'haïtien est de manger, le deuxième rêve de l'haïtien est de partir. Donc on est entre ces deux rêves-là. Donc on regarde l'autre bord, on regarde l'autre rive. Donc et déjà, on est dans une situation, et de là-bas, ce qui arrive de là-bas, c'est un petit peu drôle, parce que quand on atteint l'autre rive, on revient au lieu de départ. On revient à l'origine, on revient à la genèse. Donc il y a beaucoup de choses, et même par rapport beaucoup de choses que je ne connaissais pas en Haïti, c'est quand je suis arrivé à Montréal, par exemple, par rapport à la cuisine, la première chose, quand je suis arrivé ici, vous rencontrez un Haïtien, il vous invite à manger, mais à manger haïtien. Donc c'est drôle parce que vous revenez d'Haïti, vous cherchez d'autres choses, et puis vous voyez qu'il y a un ancrage en Haïti, un ancrage qui se fait pratiquement dans l'errance. Donc on laisse Haïti pour aller à Montréal, et quand on arrive à Montréal, on rencontre peut-être le meilleur d'Haïti à Montréal dans la distance. On rencontre les épices qu'on ne trouvait pas en Haïti. Et partout, dans toutes les langues, on rencontre le créole. Et j'étais arrivé à l'aéroport, j'ai entendu qu'on disait « Ah, il fut fret !» Et pour moi, donc, tout est créole. « Il fut fret !» C'est vraiment le mot est créole. Et j'ai pu voir dans le joual, la proximité, tout le recoupement qu'il y a avec la langue créole. Et quand je lis Gaston Miron, il n'y a rien de plus créole que certaines phrases de Gaston Miron. Donc il y a cette quête de la langue, cette quête de tout ce qui nous fonde, que l'on retrouve ici. Mais le drame aussi, c'est la question de l'altérité. Il y a les mots, et en Haïti, par exemple, le mot nègre. Le mot nègre, en fait, la chose, ça veut dire quoi? La chose, c'est l'idéal humain. En fait, le blanc, un bon blanc en Haïti, c'est un nègre. Dès qu'on est bon, quelqu'un qui est bon est un nègre. Donc si De Fontenay arrive en Haïti, il est bien, on va dire « Oh, quel bon nègre !» C'est ça. Donc pour nous, le mot... Donc vous voyez, quand je viens ici, donc j'ai appris qu'il y avait les nègres et les blancs. Donc je ne savais pas. Je pensais que l'idéal humain était nègre. Donc être un grand nègre. Donc vous voyez, donc je suis complètement en pleine schizophrénie. quand vous voyez, donc quand vous arrivez ici, puis les mots, ça change de sens, et là vous vous battez entre eux, dans les sens, vous vous battez, parce que il faut vraiment trouver un autre mot, il faut trouver une autre saveur au mot. Et ce qui est aussi difficile, c'est en tant que qu'être déplacé, c'est de séduire la ville nouvelle, c'est de l'habiter. On ne peut habiter qu'une ville qu'en la séduisant, qu'en prenant langue avec cette ville-là. En créole, prendre langue, ça veut dire s'embrasser. Donc vous voyez, en échangeant nos langues, c'est-à-dire en parlant le créole aux gens, en les embrassant, en les touchant, donc c'est comme ça. Et vraiment, c'est-à-dire que donc on est dans une espèce de corporéité. Donc, ok, il reste 3 minutes, ça va. Donc, vous voyez, donc on est vraiment dans le dialogue, mais un dialogue assez physique. On touche, on regarde, il y a un désir qui naît. Et donc c'est assez important de voir cet écartèlement. Comment on débarque dans une ville et comment on recrée cette ville. Et c'est important quand, par exemple, je traverse Montréal Nord, je ne me suis jamais senti pratiquement plus chez moi. Même en Haïti. En Haïti, je rêve de partir. Le mot partir est présent. Et quand je suis ici, par exemple, je vais à Montréal Nord, tout se passe en créole, la cuisine est créole, les gens parlent créole, etc. Donc, je suis vraiment dans une atmosphère, dans une ambiance profondément créole. Donc, et ce qui est en fait fondamental dans ce dialogue, c'est qu'il y a une relation au monde qui est beaucoup plus globale, qu'il y a ce que Césaire et Césaire appellent, je pense, le donner et le recevoir. Et je me rends compte que quand je dis, par exemple, aujourd'hui chez moi, je ne sais plus ce que je dis quand je dis chez moi. Donc, je suis un être divisé, mais enrichi. Enrichi de la mesure où je suis haïtien, mais quand j'arrive en Haïti, on me regarde comme si j'étais un produit un petit peu altéré, donc tu vois, avec un petit peu avarié. Et ici, c'est intéressant de voir cette altérité. Ici, j'évalue quand je fais quelque chose de bien, quand on dit l'écrivain montréalais d'origine haïtienne. J'ai dit, ah, c'est bon. Quand je suis devenu montréalais, aux yeux du Montréalais, c'est intéressant, parce que quand il dit l'écrivain haïtien qui vit à Montréal, c'est autre chose. Donc vous voyez, donc il y a toujours cette espèce d'évaluation. Et pour finir, je vais vous montrer la confusion que je suis, où je suis quand je dis chez moi. Quand je dis chez moi, je ne sais plus aujourd'hui ce que ça veut dire, ou bien je sais ce que ça veut dire, et chez moi... Et ça devient complètement, dans mon écartèlement, ça veut dire que je suis complètement dans une espèce de schizophrénie. Donnez-moi 30 secondes pour que je trouve ma maison. J'ai une idée fixe. Rentrer chez moi. Chez moi, c'est cet appartement de la rue Chabot, dans le quartier Rosemont, Montréal. Un magnolia près de l'escalier en colimaçon en fer forgé. Le silence des souvenirs, les toiles sur les murs et les livres qui attendent sur des étagères en bois. La neige sur la vitre fond, la lumière de l'aube pénètre le jour, un début de soleil est à l'horizon. Je pense au poème de Gérald Godin. J'ai vu le soleil se lever dans tant et tant de pays, je ne savais plus lequel était le mien. Merci.
La deuxième conférencière, c'est Kim Thuy. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, Kim Thuy a eu deux vies, hein, malgré son jeune âge. Kim Thuy, d'abord, interprète, avocate, chef propriétaire de restaurant, j'imagine.
Oui.
D'accord.
Ça veut juste dire plongeuse.
Ah. Avant d'arriver à l'écriture, et on la connaît surtout depuis quelque temps, par son roman Rue, qui l'a fait connaître et qui lui a valu plusieurs récompenses. Elle est modeste, elle n'en a indiqué que quelques-unes. Rue, édité chez Libre Expression, qui lui a valu le prix RTL, RTL Livre, et elle a été également finaliste pour le prix première.
Il y en a quelques-uns, mais
plusieurs. Hein, excusez-moi. Mmh. Mais en tout cas, elle a obtenu le prix du gouverneur général.
Non.
La finaliste.
La nomination. Je pensais que vous l'aviez obtenue. Je suis désolée.
Elle va l'obtenir.
Je prenais ça comme une prophétie. C'est une prophétie. C'est une prophétie. Excusez-moi, je pensais que vous l'aviez obtenue.
Alors, on
vous le souhaite pour la prochaine fois. Il ne faut pas dire ça, que ce sera Monsieur Laferrière.
Moi, je ne suis
pas Alors, il ne faut pas rire. Alors, en tout cas, quand vous lisez Rue, vous ne regarderez plus jamais votre grille-pain de la même façon. Je peux vous l'assurer. Alors,
quand Monsieur Fontenay m'a contacté, il m'a caché, ou sinon il ne m'a pas dit que le public allait être des professeurs en littérature, parce que sinon sinon je ne serais pas ici, je vous dirais, parce que, et je vous raconte, c'est que j'ai toujours aimé les mots, mais je ne possède pas aucune des trois langues dont je parle, le vietnamien, le français et l'anglais, et je me suis battue avec ma mère pour pouvoir aller en traduction et non pas faire les sciences à l'université. Et le premier cours, j'ai pas osé choisir littérature française tout simplement parce que je savais pas qu'est-ce qu'on pouvait faire au bout du diplôme, alors que la traduction, s'il y avait une profession à la fin. Donc le premier cours que j'ai pris, c'était création littéraire. Et à la mi-session de ce premier mois, en fait, à l'université, le professeur m'a convoqué dans son bureau pour me demander de changer de faculté. Parce que il m'a dit qu'il n'avait jamais fait ça de sa carrière, mais sur 100, il divisait en trois blocs. Un pour la maîtrise de la langue, le deuxième bloc était la participation en classe, et le troisième pour la créativité. Il a dit, pour la maîtrise de la langue, me donner 0 sur 33. Et je comprenais, en fait, ça faisait quand même 10 ans que j'étais au Canada, mais au milieu des experts, évidemment, je n'avais pas les connaissances requises. Et pour la participation en classe, il m'a donné également 0. Donc, je l'ai regardé, j'ai dit, oui, mais ça fait 66%, ben j'ai coulé. Il dit, ben c'est exactement ça. Donc, il m'a conseillé d'aller directement à l'administration pour récupérer mon argent pour le cours parce que c'était encore assez tôt. Et quand on a 19 ans, c'est difficile de retourner à la maison et dire à sa mère que t'as raison. J'aurais pas dû aller en lettres et puis changer de faculté. Donc, j'ai préféré défier ma mère. Que d'abandonner. Je suis retournée en classe jusqu'à la fin du diplôme avec le mot honte tatoué ici sur le front. Et ce prof-là m'a fait passer, je pense, un petit peu pour mon courage d'être retournée en classe avec ce mot-là tatoué sur le front. Et puis, j'ai quand même fini le diplôme en sachant que je n'allais pas pouvoir écrire. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'avais complètement abandonné l'idée d'écriture. Peu importe, l'histoire a fait qu'à 40 ans, on fait des crises de la quarantaine, les hommes achètent des voitures de sport ou sinon commencent à avoir des maîtresses. Moi, je m'y connais pas en voiture, je m'y connais pas en maîtresse, donc j'ai écrit. J'écris probablement parce que j'adore les mots. On se sent très schizophrène parce que justement les mots n'ont pas le même sens dans nos têtes à nous, et j'aime raconter des histoires. Et le premier pont, en tant que je sais pas qu'est-ce que je fais, je suis pas vraiment écrivaine, j'aime écrire tout simplement, et ce livre-là c'était à mes enfants. Je voulais vraiment faire le pont entre mes enfants et mes parents. Mes enfants sont moitié québécois. Ils ne parlent pas vietnamien, malheureusement. Et mes parents sont vietnamiens, qui parlent français, mais sont vietnamiens à la base. Et il y a beaucoup d'histoires culturelles où il fallait que j'explique d'une part et l'autre pour pouvoir, les faire comprendre les uns et les autres. Et dans le livre, justement, j'ai raconté l'histoire où... parce que les Vietnamiens croient que on est le résultat de ce que nos ancêtres nous ont laissé derrière. Donc, nos ancêtres sont nécessairement en haut de nous. Et dans ce cas-là, il ne faut pas qu'on touche la tête des autres parce qu'on est en train de toucher tous les ancêtres qui portent avec beaucoup de respect au-dessus de sa tête. Mes fils, évidemment, n'ont pas cette connaissance-là. Et eux, ils vont toucher la tête de mes parents avec beaucoup d'aisance et avec un naturel déconcertant parfois parce que moi, j'ai jamais touché la tête de mes parents alors que mes enfants saute et joue avec les cheveux de mes parents. Et mes parents n'accepteraient pas que je le fasse avec eux alors que mes enfants ont le droit. Donc, c'est vraiment une histoire où il y a peut-être une confusion culturelle ou une fusion culturelle après deux générations, probablement. Et je me disais, c'est très difficile quand je suis incapable d'écrire en vietnamien parce que je suis partie à l'âge de 10 ans. Alors, le vietnamien que je connais est un vietnamien d'enfant. Et aussi parce que le vietnamien n'a pas de pronom personnel. Donc, quand on parle à quelqu'un, il faut tout de suite se placer par ordre hiérarchique. Donc, si c'est quelqu'un qui est un petit peu plus vieux que nous, ben il faut qu'on les appelle grand frère, grande sœur, et qu'on se nomme petit frère, petite sœur. Donc, ce serait petite sœur aimerait boire de l'eau. Est-ce que grande sœur peut donner le verre d'eau? Donc, tout de suite, on se place en position. Comme ça, quand je parle en vietnamien, je suis toujours enfant. Quand je parle à mes parents, c'est « enfant va venir ce soir à la maison des parents », par exemple. Donc, c'est très difficile d'argumenter avec quelqu'un quand on commence par dire « enfant ». Donc j'ai appris à parler ou sinon à réfléchir en français. Parce qu'à partir de 10 ans, c'était au Québec. J'ai eu la chance de retourner au Vietnam, travailler une fois adulte, une fois avocate. Mais là encore, j'avais un langage très étrange pour les Vietnamiens parce que il y a personne qui se nomme enfant pour parler à d'autres. Ils ont d'autres pronoms, pas pronoms personnels, mais ils vont se dire plutôt nièce ou quelque chose comme ça. Mais moi, tout ce que je connaissais dans ma langue à moi, c'était enfant. Et on travaillait avec les conseillers du premier ministre du Vietnam sur les politiques de réforme. Et j'arrive et je dis, oui, enfant aimerait vous faire une présentation sur la privatisation des sociétés de l'État aujourd'hui. Alors, je peux vous dire qu'il y avait un petit écart culturel dans la langue et il riait beaucoup de moi au départ. Il dit, non, mais pourquoi tu te nommes enfant? Tu n'es plus un enfant. Donc, je n'aurais jamais pu écrire en vietnamien. Sauf que mes histoires, les histoires que je voulais raconter dans ce livre-là étaient des histoires en provenance de la culture vietnamienne. Et comment traduire en français des notions qui... il me reste combien de minutes? Oui, alors, je me dis, mais ce sont, par exemple, ce geste de la main sur la tête est un geste centenaire, si ce n'est pas millénaire, qui ont été transmis, qui se transmettent d'une génération à l'autre, et ça, c'est basé sur des croyances tellement lointaines ou sinon enracinées que je me disais, comment est-ce que je pourrais expliquer tout ça en une phrase ou en deux phrases dans un texte pour que un lecteur qui n'est pas vietnamien, puisse capter l'importance de ce geste-là ou de ce qu'on porte au-dessus de la tête. Et ça a été un travail très agréable, je vous dirais. J'allais vous dire difficile, mais c'est pas vrai parce que je me suis amusée pendant tout le temps de la rédaction. Et j'ai un ami, Jacques Savoie, qui est un écrivain, et il a lu le manuscrit et il m'a dit, c'est tellement étrange. Et il ne comprenait pas qu'est-ce qui était étrange dans le livre parce qu'il dit, le livre était écrit en français. Mais il sentait que c'était vietnamien et il n'était pas capable de mettre le doigt sur la raison pour laquelle il sentait cette odeur-là, l'odeur de la sauce de poisson probablement, bon, peu importe, qui est assez forte. Mais c'est un mois plus tard, une fois que le livre était publié, il m'a dit, ah, il a trouvé la raison, c'est que les mots étaient en français, mais toute la structure de pensée était vietnamienne. Et c'est ça qui fait que ça donne une couleur un peu particulière ou sinon étrange. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est tellement un tout petit livre. Je suis gênée d'être ici. Il n'y a pas de raison à ce que je sois ici. Mais donc, un petit peu et une des belles expériences que j'ai eues, je reviens tout juste de Manosque, où il y avait 14 enfants d'un lycée international qui parlaient 9 langues différentes, qui se sont retrouvés sur scène et ils ont décidé de choisir des extraits de rue de mon livre et ils l'ont livré sur scène en 9 langues. Il y en a un qui commençait en français, puis le deuxième continuait avec la dernière phrase, mais en russe. Et puis là, il continuait en russe, et puis un autre qui arrivait et puis qui le disait en hindi, et un autre en coréen. Et à un moment donné, il y avait juste un petit garçon de 11 ans qui était en avant et qui a livré le texte en japonais. Et parfois, je m'en souviens, c'était une fille, une qui parlait en anglais, et s'est arrêtée au mot « fear », et en arrière, les 14 ont dit le mot fear, mais dans leur propre langue. Et là, je me disais, mais jamais on mettrait un à côté de l'autre, un coréen puis un néerlandais, et croire que ces langues-là pourraient donner une musique commune. Et pourtant, ces 9 langues-là ont créé une certaine harmonie. Et je me disais que peut-être que finalement, c'est la transposition tout simplement de l'essence même du mot peur, ou sinon du sentiment qu'ils ont retiré de ce texte-là, et que peu importe la langue dans laquelle ils livraient ce sentiment-là ou ce texte-là, on allait ressentir la même chose. Et évidemment, c'était à l'extérieur, dans un lieu public, on était au moins une centaine. Et je ne sais pas pourquoi, mais il y avait un silence extraordinaire dans la rue et on entendait presque les mouches voler. Et personne ne comprenait évidemment ce qui était dit, mais il y avait cette harmonie-là, cette mélodie-là qui a été livrée. Et donc, je me dis que finalement, peut-être culturellement, le pont peut se faire si on ne parle que l'essence même d'un événement ou d'un texte, en fait. Et les enfants ont choisi, évidemment, les moments où j'ai parlé de mon enfance. Parce que c'est là où ils ont... Bon, j'arrête parce que je vois une minute et je... alors, voilà.
Merci, Kim Thuy. Eh bien, la troisième intervenante, Tassia Trifiatis. Alors, Tassia est née à Montréal. Elle a dit son âge, mais je ne vous le dirai pas. D'un père grec et d'une mère québécoise. Elle a enseigné le français pendant 5 ans, donc elle a quelque chose en commun avec vous. Auprès, justement, elle a enseigné à des élèves dont le français n'était pas la langue maternelle. En 2004, elle réalise un court-métrage sur les liens tissés entre deux commerçants montréalais, un juif hassidique et un tunisien musulman. Donc on était dans le dialogue interconfessionnel, un court-métrage qui a été présenté aux rencontres internationales du documentaire de Montréal. Après un diplôme en études cinématographiques, Tassia obtient en 2009 une maîtrise en littérature comparée de l'Université de Montréal, dont le mémoire porte sur le récit de voyage dans le roman graphique. Son deuxième roman, Mère Grand,
le premier,
je l'ai sauté, Judas, c'est vrai, Judas, chez Leméac. Mère Grand a vu le jour en août dernier et s'inspire de la démence dont souffre son aïeul. Présentement, elle travaille à son troisième roman et se prépare pour la sortie en avril prochain d'un collectif d'auteurs auquel elle a participé. Et elle affirme qu'entre tout cela, il y a eu beaucoup de voyages et plusieurs langues. Alors, Tassia.
Ben moi, bonjour tout le monde, merci de m'avoir invité. Vu que je suis venue ici en tant qu'auteur, je vous ai écrit un texte que je vais vous lire. Lorsque j'étais petite, mon père ne me parlait qu'en grec et ma mère ne me parlait qu'en français, afin que j'apprenne les deux langues en même temps. Puis, j'ai grandi dans un quartier et j'ai fréquenté des écoles où la majorité des enfants demandaient et répondaient à leurs parents en créole ou en portugais. Plus tard, dans les quelques écoles juives où j'ai enseigné, les journées se passaient en anglais, en hébreu et en yiddish. À l'université, étant étudiante de littérature comparée, les sonorités d'allemand et d'italien m'ont tenue compagnie pendant mes lectures. S'ajoutant toujours au français et au grec, les êtres les plus proches de moi avaient l'arabe, l'espagnol, le turc et le kurde comme langue maternelle. Langue maternelle. Je me demande aujourd'hui, quelle est ma langue maternelle à moi, qui suis née de tous, bâtie partout, tout en vivant continuellement ici dans cette ville? Qui est cette langue maternelle avec laquelle je transmets ma culture, que j'exerce le passage de mon identité, moi qui suis métissée dans mon essence et écrivaine dans ma vocation? Quelle langue est-ce que je parle quand j'écris? Depuis quelques années, j'en suis venue à croire que j'écris dans un mélange de langues, toutes unies, dans mon imaginaire par les personnes passant sur mon chemin. Dans mes textes, certes, mon véhicule est le français, mais son moteur se trouve dans cette danse et cet entrelacement des langues de partout qui m'inspire tant à écrire. Ces langues, même si je ne les connais pas assez pour les lire, les écrire ou converser à travers elles, je les prends et j'en crée une littérature propre à moi. C'est elle ma langue d'écrivain. Une langue française inspirée des gens et déplacements de ma vie et de ses polyphonies. Un peu comme lorsque l'on a plusieurs passeports, mais qu'on ne peut habiter qu'un seul pays à la fois. Mon pied à terre serait donc le français, mais mes possibilités langagières sont toujours disponibles à être dépassées. La personne qui fait de l'écriture le souffle de sa vie se trouve devant plusieurs passages, plusieurs rivières à traverser. Chaque écrivain a une langue qui lui est propre. Il parle dans ses narrations et ses dialogues, sa langue d'écrivain. Une langue qui ne lui est pas toujours familière. L'écrivain écrit souvent en une langue qui lui est étrangère même. Personnellement, il m'arrive souvent de transcrire des phrases qui viennent d'ailleurs. Elles m'échappent. Je dois me traduire moi-même. M'expliquer, de moi à moi, la langue de mon écriture. L'écrivain en tant que passeur. Il existe plusieurs passages pour l'auteur. Le premier serait de son âme à ses mains, puis de ses mains à la feuille. Cette feuille qui touche matériellement les gens qui le lisent. Ce papier passeur d'âme est le seul lieu que toucheront à la fois l'auteur et le lecteur. C'est le passage de la traduction entre les esprits. Le pont entre la langue de l'auteur et celle du liseur. La langue maternelle. C'est ce roman de Vassilis Alexakis qui m'a jeté dans les bras de ce qui fut mon premier roman, Judas, paru en 2007, dont j'ai commencé l'écriture à l'âge de 23 ans. Ce qui m'a bouleversée au point de transformer ma vie était le fait qu'Alexakis, qui tout comme moi a grandi en grec mais qui vit présentement en français, avait une intrigue et un personnage principal surprenant, la langue elle-même. Et c'est cette possibilité de faire de la langue, celle avec un grand L, le noyau de son œuvre, qui m'a légué en quelque sorte mon droit à l'écriture, moi qui me croyais sans imagination. Ce n'est donc pas un hasard si j'ai dédié mon premier roman non pas à un être humain, mais à une lettre de l'alphabet, la lettre D, plutôt au son D. Judas était dédié à la fois au delta grec, au dal arabe et au dalet hébraïque. Pourquoi? Parce que je dois ce livre aux personnes que j'ai croisées et qui sont devenues personnages et qui possédaient leur propre bagage langagier. En prenant ces personnes issues de d'autres cultures et qui parlaient d'autres langues, je me les suis appropriées et je les ai traduites dans ma propre écriture, c'est-à-dire que je les ai fait vivre sous le toit de ma création. Dédier un livre à un son, rendre hommage à la langue en empruntant le chemin du phonème. Mes trois personnages principaux étaient grecs, juifs et arabes, enfants de langues anciennes, de langues sacrées, alphabet mouvant, dessiné. Mon roman était tout, sauf teinté de folklorisme, d'exotisme et de lieux communs, mais était empli des tonalités communes. Les langues de mes protagonistes, celles de leur cœur et de leur gorge, faisaient elles aussi partie intégrante du romanesque. Elles y étaient des acteurs actifs. Les langues autres, installées dans la langue une, étaient des infiltrations d'une source intarissable de poésie. Mais la dernière phrase de Judas se finit aussi avec la langue. Je vous lis le dernier paragraphe de mon roman initiatique, pas vraiment parce que je tiens à me citer moi-même, mais bien parce que la conclusion d'un premier roman peut mettre en lumière le parcours d'un auteur. Ces lignes sont la preuve de mon identité polyphonique et de l'acceptation d'un univers fait de passages incessants, de ponts jamais brisés entre les langues et les alphabets, passerelles qui m'ont formée en tant que femme et artiste et par lesquelles je transmets ma vision, ma vision du monde à l'autre. Dans le passage que je vais vous lire, la protagoniste montréalaise, qui est en deuil de son enfant mort, va se recueillir en Grèce sur le tombeau de Saint Nectarios. J'avais compris que les signes sous mon chandail étaient à moi. Une main sur le caveau et l'autre sur mon ventre, j'ai pensé au sein les yeux ouverts. Le braille sur ma peau raboteuse était assez lisible pour que je consente à le déchiffrer. Et puis la prière était tracée, un nouvel alphabet s'était inscrit dans le creux de mes vergetures. Quelques années après la langue maternelle, Vassilis Alexakis va plus loin et incorpore un autre personnage, une troisième langue. En effet, dans son roman « Les mots étrangers », livre polyglotte, il nous présente trois personnages principaux. Le français, son moteur, le grec et le sango, langue du Centrafrique. La trinité que forment ces langues devient le centre de la narration. C'est alors que l'on voit la constellation des temps. Les trois langues se veulent celles de son histoire et de ses différentes chronologies. Le grec, la langue du passé, le français, la langue du présent, et le sango, la langue qu'il a choisie pour être celle de son futur. La langue étrangère selon les temps. Dans mon deuxième roman, Mère Grand, je parle d'une autre langue, d'un autre type de culture. La langue de l'histoire, la langue de ma naissance, la langue des vies. Elle aussi doit être traduite, interprétée. C'est la langue de ma grand-mère maternelle, fille d'ouvrier québécois ayant à peine terminé l'école primaire. Langue de la femme qui m'a élevée, langue québécoise. À travers ce roman, ou cet hommage plutôt, je dresse des passerelles culturelles, mais cette fois-ci afin de rejoindre l'héritage. Voici un court extrait. Il est aussi question de la langue, un dialecte peut-être, celui des vieux. Certains mots de mon enfance mourront en même temps qu'elle. Les vieux ont une langue bien à eux. Il faut l'apprendre, puis s'en séparer. Il existe un territoire rattaché à la plupart des langues étrangères. L'élève débutant son apprentissage sait donc où aller pour son immersion. Pour vivre à même un nouveau langage, il peut aboutir dans le pays, dans l'espace de gens qui la mâchent chaque jour. Dans le cas des étudiants de langue, un déplacement est possible pour retrouver les mots secrets qui sont décryptés. Mais la contrée des vieux n'existe pas, même s'ils ont un dialecte bien à eux. Où aller lorsqu'on veut s'exercer à utiliser les codes reçus en héritage? Lorsque j'étais gamine, j'aimais surtout les vieux et très peu les enfants. Je me joignais aux vieux dans leurs activités et je parlais leur langue. Moi, je parle quelques langues étrangères et aussi le vieux de ma grand-mère à moi. Mais je ne pourrai jamais l'apprendre à mes enfants, ça aurait l'air emprunté. Sa langue ne se parle qu'avec les inflexions de l'âge. La langue étrangère. Ces personnes âgées étrangères à nous désormais, le passé de notre langue, de ses racines à ses accents, lui aussi étranger. Par la moitié de moi qui est grec, qui connaît la Grèce et la langue grecque, je suis moi aussi étrangère à ma grand-mère, et même à ma mère. Il faut des passages. Je parlais du fait que chaque écrivain possédait sa langue propre lorsqu'il créait ses histoires. Voilà peut-être pourquoi, dans chacun de mes livres, il y a des moments où je m'adresse à la deuxième personne du singulier, au « tu », afin de m'expliquer. Par exemple, dans cet extrait, la narratrice, mon alter ego, ajoute « Connaîtrais-tu un endroit qui me permettrait de te garder près de mon oreille à jamais, mère grand, afin que tu me parles en vieux tout au long de ma vie? » C'est comme si je voulais dire à mes lecteurs « Je m'adresse à elle, mais à vous. Lorsque je parle, ma langue qui unit toutes les autres, à la fois les langues dites étrangères et les langues des autres époques. » Il y a cette expression qui m'a toujours intriguée. Parler en langue. Qu'est-ce qu'elle veut dire enfin, mis à part qu'elle provient du domaine religieux? Eh bien, parler en langue est ce qu'on appelle un charisme, c'est-à-dire un don. Et ce don s'appelle glossolalie. Les premiers chrétiens croyaient que si l'on laissait l'Esprit de Dieu parler à notre place, utiliser notre bouche pour s'exprimer, il était possible de parvenir à prier dans une langue inconnue, une langue que l'on n'avait ni apprise ni parlée auparavant. Pour l'anecdote, tout est expliqué, selon certains, dans les Actes des apôtres. Parfois, le parler en langue est suivi d'une interprétation, et parfois non. C'est que souvent, il ne s'agit même pas d'une langue existante chez les humains qui sort de ces croyants-là. On fait le vide et la prière monte en mots ignorés, en syllabes écorchées, presque endiablées. La glossolalie permet de dire des choses que l'on ne capte pas, ce langage ne pouvant être contrôlé ni par la raison ni par la connaissance. Elle donne la permission d'émettre des sons dont la portée nous échappe. Celui qui parle en langue est comme celui qui est possédé. Il articule des louanges atteignant les gens sans toutefois être responsable du sens exact qu'elles provoquent. Vassilis Alexakis, lui, pour sa part, semble écrire en langue. Dans cette perspective, son œuvre serait-elle une glossographie? D'un point de vue littéraire, je crois que je suis l'enfant de cet auteur, celui qui, inspiré de toutes les langues de sa vie, tourne autour des mots lointains et des mots communs de son existence, debout sur la passerelle des traductions possibles et impossibles. Merci.
Merci beaucoup, Tassia. Eh bien, alors, nous allons compléter avec Carole Fréchette. Carole Fréchette est québécoise, vit, comme nous tous, d'ailleurs, et vit à Montréal. D'abord formée comme comédienne à l'École nationale de théâtre du Canada, elle se consacre à l'écriture depuis une vingtaine d'années. Ses pièces, traduites jusqu'à maintenant en 18 langues, sont jouées, mon Dieu, c'est Michel Tremblay, sont jouées... partout à travers le monde. Elle est également l'auteur de deux romans pour adolescents, diffusés eux aussi en plusieurs langues. Ses œuvres ont été saluées par de nombreuses récompenses au Canada et à l'étranger, notamment sa pièce « Les quatre morts de Marie » a reçu le prix du gouverneur général en 1995. Et cette fois, ce n'est pas une prophétie. Mais le passé est meilleur garant de l'avenir. La CACD lui décernait à Avignon le prix de la francophonie pour souligner son rayonnement dans l'espace francophone et elle recevait la même année à Toronto le prix Siminovitch, la plus importante récompense au théâtre, en théâtre au Canada. Voilà. Alors, Carole, vous avez...
Oui, le privilège du dernier, c'est-à-dire un
peu... Oui, c'est vrai, c'est bien. Bon. Alors, quand Rachida nous a envoyé la liste des participants, la première chose qui m'a frappée, et c'était bien sûr que de toutes les personnes qui sont assises à cette table, je suis la moins pluriculturelle. Je suis, comme disait Rachida, disait, ils sont tombés dans l'interculturalité quand ils étaient petits. Ben, c'est pas vrai du tout pour moi. Moi, je dirais que je suis à cette table la plus monoculturelle. Certainement que tout le monde, on est tous un peu hybrides, on a tous subi différentes influences. Personne n'est pur de culture pure et unique, certainement. Mais on peut dire en gros qu'en tout cas, si je me compare à mes camarades ici à la table, je suis vraiment très monoculturelle. Je suis née à Montréal de parents québécois, tous les deux d'ascendance française. J'ai grandi à Montréal. J'ai fait mes études dans les écoles francophones de Montréal et j'ai vécu toute ma vie au sein de cette culture. Quand j'étais jeune, je dirais que la figure de l'autre, la plus familière pour moi, était la figure de l'anglais. Il y en avait quelques familles anglophones sur notre rue. On les regardait comme ça, on leur parlait pas beaucoup. Et il y avait bien sûr la télévision en anglais, la télévision canadienne, américaine, mais il reste que... Pour moi, la figure de l'anglais, c'était une figure familière, mais c'était pas une figure avec laquelle j'avais des contacts vraiment rapprochés ou fréquents ou tout ça. Je suis pas non plus globe-trotteur. J'ai vécu l'essentiel de ma vie ici. J'ai jamais vécu en dehors de mon pays pendant plus de 2 mois d'affilée. Donc, voilà qui je suis. Je suis donc entièrement et profondément d'ici. Je dirais donc québécoise francophone, c'est-à-dire issue d'une culture minoritaire au sein d'un grand ensemble anglophone. Je suis canadienne, même si je ne m'identifie pas beaucoup émotivement à cette culture, je sais qu'elle fait partie de moi et qu'elle me constitue. Et je me sens profondément nord-américaine. C'est-à-dire, c'est une identité que je sens très fort, surtout quand je suis en Europe. Je sens que je suis d'Amérique, donc d'un continent jeune. Si on accepte bien sûr les cultures autochtones qui étaient ici depuis des millénaires, mais on a l'habitude de dire qu'on fait partie d'un continent jeune, d'un point de vue européen en tout cas, et un continent relativement protégé de la tourmente du monde. Un continent d'immigration où convergent des gens des vieux continents à la recherche d'une vie meilleure. Moi, je suis née et j'ai vécu toute ma vie dans cette vie meilleure. pourrait dire. C'est une chose qui est très présente, je crois, dans ce que j'écris, cette conscience que c'est là mon point d'attache dans le monde, que c'est de là que je ressens et que j'observe le monde. Voilà. Donc, c'est donc de ce point de vue monoculturel que je vais aborder la question de l'écrivain comme passeur de culture et de la création comme outil de rapprochement entre les cultures. Je me suis dit qu'il y avait deux façons de regarder qu'est-ce que c'était mon rapport aux cultures différentes et mon rôle de passeur entre les langues et les cultures. On peut regarder la rencontre de mes pièces avec les autres, avec les publics des autres cultures à travers les traductions de mes pièces. Et puis aussi, je me suis dit que je pouvais m'intéresser ou je pouvais regarder s'il y avait rencontre des cultures à l'intérieur de mes pièces. Donc, je vais vous parler brièvement de ces deux points de vue-là. Donc, on va commencer par la rencontre de mes pièces avec des publics d'autres cultures. Lorsque j'ai commencé à écrire, j'ai pas du tout pensé à... Je me suis jamais posé la question, est-ce que ces pièces vont faire sens pour des gens d'une autre culture que la mienne? C'est pas une question, je pense, qui nous vient quand on écrit. Enfin, surtout pas quand, comme moi, on a toujours vécu dans la même culture, la question de est-ce que ce que j'écris est transférable dans une autre culture, on ne se pose pas cette question-là en écrivant. Et comme beaucoup d'auteurs, je pense que quand on écrit, on a un peu des interlocuteurs imaginaires, des gens, des interlocuteurs à qui on s'adresse plus ou moins en écrivant. Et pour moi, ces interlocuteurs étaient ceux de ma culture, avec qui je partage une langue, une sensibilité, une histoire, un port d'attache dans le monde. Donc, je dirais que mes premiers textes, Baby Blues, Les Quatre Morts de Marie, Les Sept Jours de Simon Labrosse, La Peau d'Élisa, sans être situés dans un lieu précis, parce qu'il y a très peu de lieux précis qui sont nommés dans mes pièces, mais toutes ces pièces-là, je trouve qu'elles portent la marque de la vie d'ici, c'est-à-dire vie francophone en Amérique du Nord. Et moi, quand j'ai commencé à écrire mes premières pièces, j'espérais très fort qu'elles seraient jouées ici, et qu'elle serait appréciée par les gens d'ici. Et en fait, j'en demandais pas plus, d'une certaine façon. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé exactement. À partir de ma deuxième pièce, qui s'appelle « Les quatre morts de Marie », mes pièces ont commencé à être jouées à l'étranger en même temps et quelquefois avant d'être jouées ici. Dans les pays francophones d'abord, en France, en Belgique, en Suisse, et puis très vite en traduction, en anglais d'abord, et puis en allemand, en espagnol, et puis dans une quantité d'autres langues. Donc, comme le russe, le lituanien, le croate, le hongrois, l'islandais, l'arabe, le japonais, le turc, etc. Donc, tout ça, et c'est vrai que ce n'était pas du tout quelque chose dont j'avais rêvé pour mon écriture. Je ne saurais pas dire exactement pourquoi c'est arrivé, mais évidemment que ça fait très plaisir et que ça a fait aussi que ça m'a donné le privilège d'assister quelquefois à mes pièces jouées dans plusieurs langues, dans des langues que je comprenais, quelquefois que je ne comprenais pas. Je pense aussi qu'un auteur de théâtre a, pour nous, l'expérience de la traduction, je pense, est doublement forte parce que, contrairement à un romancier ou un poète qui peut avoir le plaisir de voir ses textes traduits, nous, en plus d'avoir nos textes traduits, on a des passeurs qui vont passer nos textes dans leur corps et dans leurs gestes et dans leur mise en scène. Et ce qui fait que c'est une communauté de personnes, en fait, qui s'emparent de notre univers. Donc, c'est certain que d'arriver à l'étranger, dans une ville qu'on ne connaît pas, et d'être accueilli par des gens vont vous présenter votre pièce en japonais ou en grec. Ça crée une espèce de complicité très rapide parce que ces gens-là, ils viennent de vivre 3 mois dans votre univers. Ils ont passé 3 mois dans votre tête, en fait, pendant que vous n'étiez pas là. Et dans votre tête, mais avec leurs propres mots. Donc, alors, on a l'impression de se comprendre. Et puis après, moi, je m'assois dans la salle et je regarde la pièce. Et évidemment, dans la, moi, je n'ai qu'une autre langue, c'est l'anglais. Je ne parle pas une autre langue, j'en ai bien honte. Et donc, la plupart du temps, quand je m'assois dans la salle, je ne comprends pas un mot, mais en même temps, je comprends parce que c'est moi qui ai écrit la pièce. Donc, ça, c'est une expérience fantastique.
C'est fantastique.
Et bon, je dirais que cette expérience-là m'a amené à penser que à découvrir, bien sûr, les différences, le caractère, par exemple, expansif et passionné des Mexicains qui ont joué une de mes pièces et qui ça leur a pris 45 minutes de plus à la jouer que les acteurs québécois à la même pièce. Et 45 minutes, c'était juste le temps du jeu mexicain. C'était comme ça. Le caractère réservé des Japonais qui ont joué toujours cette même pièce, Jean et Béatrice, et qui est une pièce à propos du rapport amoureux, et la metteur en scène qui m'a accueilli en disant « Mais j'ai eu des discussions interminables pour convaincre l'acteur de s'étendre à côté de l'actrice sur la scène. J'ai dû baisser les lumières et j'ai dû... » Bon, en tout cas, alors, bien sûr, il y a la beauté, l'âpreté de la langue arabe, parce que j'ai écrit un jour une pièce qui s'appelle « Le collier d'Hélène » qui se passe à Beyrouth. Et cette pièce a été finalement créée à Beyrouth et après à Jérusalem. Et moi, j'avais écrit des personnages arabes, mais qui parlaient français, parce que moi, j'écris en français. Et là, la pièce a été créée en français et en arabe. Et d'entendre le texte des personnages arabes, tout à coup, dit en arabe, et d'entendre le personnage qui dit « On ne peut plus vivre comme ça, allez-vous le dire ?» Et quand il l'a dit en arabe, alors là, c'était incroyable. Donc, ça m'a fait vivre des choses extraordinaires. Et c'est vrai qu'il y a des différences. C'est vrai que j'ai vu des différences. On les voit, les différences culturelles, les différences de sensibilité. Mais je dirais que depuis toutes ces années, ce qui me frappe vraiment, c'est la ressemblance. Ce qui me frappe vraiment, c'est que, au bout du compte, l'émotion fondamentale de la pièce est là. Elle est à la même place et que les gens sont émus à la même place et qu'ils rigolent aux mêmes endroits. Et ça, je trouve ça quand même pas mal rassurant. Et c'est vrai que souvent, on me demande ça, mais qu'est-ce que c'est? Et c'est vrai que ça existe, les différences culturelles, les sensibilités, comme je vous disais, le côté absolument passionné des Mexicains. Mais au fond, le cœur de la chose, le cœur ou l'âme de la pièce, elle est là et on voit à quel point les gens du monde entier peuvent si la pièce a vraiment un cœur et si ce cœur bat bien, il va battre pour tout le monde. Donc ça, c'était la rencontre avec les publics de langues différentes et de cultures différentes. Là, je voudrais dire un mot de la rencontre des cultures à l'intérieur de mes pièces. Donc, encore une fois, quand j'ai commencé à écrire... Je dirais qu'il y a trois grandes étapes. Là. Ça s'est fait en trois grandes étapes. La première étape, je dirais, de 1990 à 2000, j'ai commencé à écrire vers 1985, donc peut-être de 85 à 2000. C'était une époque, je trouve, comme je l'ai dit, mes interlocuteurs imaginaires étaient beaucoup des gens de ma propre culture. Et dans ces pièces du début, dans... les quatre ou cinq premières pièces que j'ai écrites, il n'y avait pas beaucoup de place pour l'autre dans mes pièces. C'est-à-dire que ça se passait entre nous. Les drames se passaient entre occidentaux, d'Amérique du Nord, voilà. Même si mes pièces ne sont pas bien situées géographiquement, je trouve qu'elles portent toutes les marques de la culture d'ici, enfin une certaine culture, je dirais, d'Amérique du Nord, bien que des Européens s'y retrouvaient facilement, mais il reste que, en tout cas, ça se passait en gros parmi des gens de même culture et tout ça. Mais en relisant ces pièces de cette première étape de ma carrière, je suis frappée par l'omniprésence de l'ailleurs, comment l'ailleurs et l'autre est évoqué très souvent, mais il n'est pas sur la scène. Et là, je vais rebondir sur M. Saint-Éloi parce que je trouvais ça beau quand il disait, quand il était petit, il imaginait le Québec comme un pays tout blanc et froid et tout ça. Et moi, dans mes pièces, alors l'ailleurs, c'est les pays chauds. Alors, il est beaucoup question de ça. Les pays chauds, alors Mes personnages parlent beaucoup de ça dans mes premières pièces. La petite fille, dans Les Quatre Morts de Marie, elle veut marcher jusqu'à la Terre de Feu. Elle va aller en Afrique observer les singes. Après, elle grandit un peu. Après, son père revient de voyage et lui, il est allé dans les villes des pays chauds, dans les villes où on frôle la mort, et il dit qu'il avait besoin de ça pour se sentir vivant. Et donc, l'ailleurs, c'est incroyable comment dans ces pièces-là, c'est représenté par l'intensité, ça représente l'intensité, le feu, les émotions extrêmes, le danger de se perdre. C'est un autre monde aux contours plus nets, aux émotions plus fortes, aux paysages plus crus, aux réalités plus brutales. Puis c'était un ailleurs qui était nourri non pas par ma connaissance de ces pays lointains, parce que quand... Bon, j'avais pas connaissance réelle de ces pays lointains, mais vraiment nourrie par une espèce de imagerie de l'enfance, je dirais, puis une espèce de mythologie propre à l'Amérique du Nord. C'est-à-dire, au loin, les gens, il y a des ouragans, la vie est plus intense, la vie est plus dangereuse, la vie est plus brûlante, etc.
C'est vrai.
Pour ceux qui viennent de là-bas, qui arrivent ici, c'est sûrement très vrai. Et puis, après, il est arrivé un événement très marquant dans mon parcours d'auteur. C'est qu'en l'an 2000, j'ai été invitée au Liban. J'ai été invitée à passer un mois au Liban avec des auteurs, d'autres auteurs de théâtre. C'était une espèce de voyage organisé d'auteurs où on a passé un mois au Liban. Et on a rencontré des gens vivre au rythme du pays. Et au retour, on devait tous écrire une pièce qui était inspirée par notre séjour là-bas. Et ce voyage, pour moi, a été extrêmement important, comme personne, mais aussi comme auteur, je dirais. C'était mon premier voyage au Moyen-Orient, mon premier voyage dans un pays musulman et dans un pays marqué par une guerre récente. Ça a été un grand choc pour moi. Et très vite, quand je me promenais dans les rues de Beyrouth et que je me disais, il va falloir que j'écrive une pièce en revenant chez nous. Qu'est-ce que je vais faire? Et en tout cas, très vite, je me suis dit, cette pièce, elle va adopter le point de vue d'une étrangère. Il me semblait que c'était le seul point, c'était la chose la plus forte que je ressentais, c'était comme je suis étrangère à ce monde. Et donc, je vais adopter ce point de vue qui me semble être le seul point de vue juste pour le moment. Et donc j'ai écrit cette pièce qui s'appelle Le collier d'Hélène, qui met en scène une femme occidentale qui se retrouve dans une ville de Moyen-Orient et qui a perdu son petit collier de perles et qui part à sa recherche dans les rues de Beyrouth et qui, dans sa recherche, rencontre des gens qui ont perdu beaucoup plus qu'un collier. Donc on peut dire que c'est une espèce de voyage initiatique de cette occidentale dans ce pays lointain. Et pour la première fois, donc, l'occidentale est en minorité dans ma pièce. C'est-à-dire qu'elle est là, Hélène, elle est bien sûr le personnage principal de la pièce, mais tous les autres personnages sont les gens qu'elle rencontre au fil de son périple dans la ville. Et enfin, un dernier mot, c'est long, hein, mais bon. C'est bon. Je pense que ce voyage-là... il a été important pour moi. Il a même, je trouve, marqué mon écriture. Il a ouvert une porte dans l'écriture. Et il a ouvert une porte à l'autre aussi, je dirais, pour mes écrits futurs. Donc, depuis 2000, je dirais que l'autre comme l'étranger, etc., il n'est pas toujours présent dans ce que j'écris, mais comme la porte est ouverte, quelquefois il entre. Et donc, je dirai quelques mots sur la pièce que je viens juste de terminer, qui s'appelle « Je pense à You », qui est donc là, cette fois, le point de départ de cette pièce n'est pas un voyage comme le collier d'Hélène, où là, c'est moi qui étais allée dans l'ailleurs, allée me confronter, mais cette fois, c'est l'ailleurs qui est rentré chez moi par le truchement d'un petit article dans le journal. Un jour, en février 2006, j'ai lu un entrefilet dans Le Devoir, qui racontait qu'un journaliste chinois du nom de Yu Dongyu venait d'être libéré de prison après avoir passé 17 ans en prison pour avoir lancé de la peinture sur le portrait de Mao sur la place Tiananmen en 1989. Oh, c'est grave. Donc, oui, c'est grave. C'est très grave. Alors, pour ce geste-là, lui, puis après j'ai appris qu'il n'était pas tout seul, ils étaient trois garçons qui ont fait ça, et ils ont été tous les trois condamnés à 20 ans de prison, et lui, ce Yoo Dong-yoo, il a fait 17 ans de prison, et il a été maltraité en prison, et donc il avait perdu la raison quand il est sorti de prison. Et voilà le monde qui rentre chez moi, l'autre qui pénètre dans ma maison, dans ma cuisine, au petit déjeuner. Et ça m'a tellement frappée, cette nouvelle, et je ne sais pas pourquoi, je me suis sentie appelée par cette histoire-là. Et donc, j'ai fait comme on fait tous aujourd'hui, j'ai tapé Yoo Dong-yoo sur Google pour voir c'était quoi cette histoire. Et puis, je me suis mise à m'intéresser à ça. Et puis, j'ai décidé d'écrire une pièce là-dessus, mais j'ai su très vite que je n'allais pas écrire une pièce sur ces trois garçons, parce que cette réalité était vraiment trop loin de moi. Alors, j'ai écrit une pièce à propos d'une femme qui, comme moi, trouve cet entrefilet dans le journal. Et alors, elle devient comme obsédée par cette histoire, et cette histoire la renvoie à sa propre vie, peut-être, à son propre passé. Et puis dans la pièce, cette femme est en relation avec deux personnages, un homme qui est un voisin qui débarque chez elle par hasard, qui lui ne s'est jamais intéressé à l'action politique, alors qu'elle est une ancienne militante qui a construit sa vie autour de l'idée de action politique et tout. Et il y a ce personnage qui est une jeune immigrante chinoise qui prend des leçons de français. Alors voilà où je vous rejoins, professeur. ça m'est venu comme ça, cette jeune immigrante qui s'appelle Lynn, elle vient frapper à la porte de Madeleine pour avoir ses leçons de français. Mais Madeleine trouve toutes sortes de façons de ne pas lui ouvrir et de remettre constamment les leçons de français, parce que Madeleine trouve beaucoup plus facile d'entrer en relation avec ces Chinois lointains qui ont souffert qu'avec cette petite fille qui vient frapper à sa porte. Enfin, après, il arrive toutes sortes de choses, mais bon, voilà. Donc, je peux dire que la présence de l'autre a changé dans mes pièces, même si je suis toujours monoculturelle. Enfin, je suis quand même en dialogue, je pense. Voilà, merci.
Alors, merci Madame Fréchette. Alors, pour une personne qui se défendait et qui s'excusait presque d'être monoculturelle, cette présentation est un aveu de pluralité qui ne souffre aucun, qui ne laisse aucun doute raisonnable sur sa culpabilité. Donc, Madame Fréchette, vous êtes coupable, comme nous tous, d'identité multiple. Et vous avez la parole sans le savoir. Alors, merci à nos quatre intervenants, et je vous inviterai à présent à réagir les uns aux autres, dans l'ordre, dans le désordre. Est-ce que certains d'entre vous voudraient...
Oui. En fait, c'est une phrase que j'aime beaucoup et qui me rejoint énormément. C'est qu'on se sent divisé, mais enrichi, comme vous avez dit. Et ça a créé toute une confusion. Quand j'étais au Vietnam, évidemment, j'avais mes patrons canadiens, et puis on avait des partenaires vietnamiens, et j'étais un peu le pont entre les deux, évidemment. Celle qui négociait dans les coulisses et tout. Et donc, j'allais voir les Vietnamiens et je disais, nous, les Canadiens, vous savez, on ne peut pas faire tel ou tel projet pour telle ou telle raison. Et puis, je retourne au bureau et je vois mes patrons canadiens et je leur disais, mais vous savez, vous ne pouvez pas imposer ça aux Vietnamiens, parce que nous, les Vietnamiens, nous devons proposer une stratégie différente et tout ça. Et mon patron, durant la première semaine, il dit, non, mais t'as un problème avec le nous. Où est le nous? T'es où? Et qui doit faire quoi? Alors, soyons clairs et tout. Et donc, avec le temps, on a développé un langage comme ça, où le nous, pour moi, était à la fois vietnamien et canadien. Donc, ça dépendait où est-ce que je me plaçais et à qui je parlais. Et je pense que oui, on est enrichi, mais parfois un petit peu fou.
C'est sûr. Et puis, ce que je voulais ajouter une chose, c'est que quand on dit l'autre, en fait, des fois, on pense que l'autre, c'est l'étranger, le différent. Mais non, l'autre, c'est nous. L'autre n'est pas celui, l'autre n'est pas le voisin qu'on ne veut pas voir. L'autre, c'est nous. Donc, il faut. Quand je dis que je suis un être divisé, mais enrichi, divisé, c'est parce que j'apprends que l'autre est en moi. L'autre n'est pas une barrière, une fenêtre qui est fermée. Donc, je pense qu'il faut établir une relation au monde beaucoup plus complexe. Il n'y a pas nous d'un côté et les autres d'un autre côté. C'est-à-dire qu'on est dans une dynamique globale, on n'est pas dans une dynamique individuée où il s'agit de moi, mais j'habite le monde. Et comme j'habite le monde, donc en fait, si le monde fait péter, donc je le sens. L'odeur ne peut pas m'échapper, donc c'est-à-dire que je ne peux pas... Donc il y a, quand ça sent mauvais pour tout le monde. Donc ce que je pense, c'est qu'il faut vraiment faire... Des fois, on pense qu'on est mono. Et puis on est...
Et on n'est pas mono.
Et puis en parlant, elle s'est découverte tellement de cultures multiples. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment de... Et ce qui est... Moi, mon expérience personnelle, c'est que je pense qu'il faut toujours éviter les artifices, éviter tout ce qui est superficiel. Et aller vraiment vers les êtres, vers l'intimité des êtres et des choses. Et il y a une seule manière de le faire, c'est d'aller vers les langues, d'aller vers les cultures, d'aller vers les imaginaires. C'est-à-dire qu'on ne peut que... Pour dépasser ce que c'est que l'haïtien, il faut rentrer dans l'imaginaire haïtien. Et vous allez trouver que ce qu'il y a, ce qu'on dit misère, c'est d'une grande richesse. C'est-à-dire, voilà un pays où il y a un certain nombre de mots qui n'existent même pas. La déprime n'existe pas. Le mot déprime n'existe pas. Dites, oh, voyez tous les gens qui sont au nord, rêvent de soleil. Vous voyez, donc on a la preuve ici. Donc, c'est-à-dire que c'est... Vous voyez les gens, il y a le séisme, et puis tout de suite, vous battez le tambour, et puis les gens disent carnaval. Vous dites, mais comment ils définissent la vie? Comment, dans leur culture, les gens disent, c'est la vie? Il y a le séisme, et puis les gens se mettent debout. Ils enterrent leur mort, et puis ils pensent à la vie. Vous dites, mais où ils trouvent ce supplément d'âme? Où est-ce qu'ils trouvent ce supplément de vie? Moi, je pense que quand on fait la comptabilité des humains, ils devaient avoir une partie pour mettre ça dans un compte en banque. Pour dire, bon, voilà ce qu'ils ont, voilà ce qu'ils ont, voilà ce qu'ils ont. Au lieu de dire que à tel endroit, ils sont misérables, à tel endroit, etc. Il y a une force de la vie qui est quelque chose de, je pense, qui est quelque chose de vraiment fondamental pour ne pas passer à côté de quelque chose qui est, je pense, essentiel. Et pour finir, je fais une petite publicité sur le livre. Comme on parle beaucoup de passeurs, il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Donc, et je vais vous lire un petit bout d'un petit bout parce que j'ai beaucoup travaillé comme passeur. Je pense que c'est peut-être notre rôle parce qu'on se sent différent. Et comme on se sent différent, on nous demande de toujours prouver notre humanité. Et c'est ça peut-être l'étranger. Et ça devient une force parce que quand je dis je suis, on me demande où vous êtes. Je dis je suis d'Haïti. D'accord? Je suis d'ici. On me dit mais je veux vous dire d'où. Quand on me dit qui je suis, je dis je suis Montréalais. On me dit d'où. Donc de quelle origine. Donc quand je dis je suis là-bas, on me dit mais vous vivez où. Ici. Donc vous voyez donc je suis complètement dans un no man's land, dans une espèce de va-et-vient. Donc dans ce cas, ce que mon imaginaire et tout le pays, ce sont les livres. Mon pays finalement, ce sont les livres que je lis, ce sont les imaginaires que j'habite, c'est là en fait je me projette. Je vais vous lire un petit extrait. Et j'aime offrir les livres comme on offre de la nourriture et de l'eau aux sinistrés. En vérité, c'est le seul métier qui a un sens à mes yeux, celui de livreur d'imaginaire, donner à manger la chair vive des mots comme des mangues mûres. On a ici l'impression de faire corps avec quelqu'un en ayant en pratique la même somme de douleur, d'amour et d'utopie. Un lien de mots plus fort que le lien de sang nous rend heureux dans la familiarité des livres. Quand je rencontre une personne qui lit les mêmes livres que moi, je sens que j'ai en face de moi un complice. Le monde a pour nous les mêmes fêlures, les mêmes mystères et les mêmes joies. Donc, on habite le même pays quand on lit les mêmes livres. Donc, on connaît les mêmes gens, on connaît les mêmes douleurs, on connaît les mêmes aventures et on partage les mêmes rêves.
Tassia, je pense qu'il voulait réagir. Ensuite, j'imagine que Carole...
Moi, en fait, je voulais dire à Carole combien vous étiez chanceuse parce qu'avec le théâtre, on peut entendre les gens qui lisent notre texte. C'est tout à fait différent du roman parce que même si, par exemple, comme Madame Thuy, ses romans ont été traduits, je crois, Et puis, même si vous avez les deux livres, vous n'allez pas voir.
Mon nom,
vous n'allez pas.
Ouais, à la maison, puis je reconnaissais juste mon nom.
Vous ne pouvez pas entendre les, les sons que, qu'on n'entend pas. Puis, je trouvais ça extraordinaire de pouvoir être assise dans la salle, puis de voir votre texte, d'entendre votre texte avec d'autres. D'autres voix, d'autres... je vous ai trouvé vraiment chanceuse. Puis je pense que c'est la différence, finalement, entre le roman puis le théâtre, quand on parle de langue et de traduction, c'est que vous voyez la langue.
Oui.
Vous pouvez voir les actions de quelle langue ont les actions sur scène, les gestes sur scène.
C'est vrai, des fois même ça... Il y a des comment dire, des croisements étonnants comme par exemple cette pièce dont je parlais, Le collier d'Hélène, qui se passe dans une ville du Moyen-Orient, que moi j'ai vu jouer en français et en arabe, mais je l'ai vu jouer aussi en islandais. Alors là, voir des personnages arabes parler islandais, ça fait beaucoup de... Mais en même temps, c'est vrai qu'on entend...
En même temps, c'est la même langue,
oui.
C'est la vôtre.
Oui, c'est ça.
C'est ça, quand je parlais de langue d'écrivain tout à l'heure, c'est chacun, vous en avez une avec le théâtre, Madame Sion, une Monsieur Saint-Éloi aussi, c'est Saint-Éloi?
Oui, c'est
ça. Excusez-moi. Tout le monde a une langue d'écrivain. En plus d'une langue d'écriture, on a une langue d'écrivain.
Tout à fait.
Puis dans le fond, c'est la même langue parce que c'est la vôtre, c'est juste que... Elle a un autre son, puis vous pouvez la voir. C'est ça que je trouve.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que on entend. C'est un sentiment très étrange d'entendre un texte. On comprend pas, mais on comprend, on entend très très fort la musique de la langue à ce moment-là.
Bien. Alors, il nous reste 10 minutes avant la conférence d'ouverture. Donc, s'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions à l'un ou à l'autre, des conférenciers, en essayant de ne pas trop bousculer le portillon. Madame,
quelqu'un. Bonjour, je vais me lever, puis je ne parle pas très fort, on a respecté. Alors, moi, je n'ai pas de question. La seule chose que je dirais, c'est que je suis ravie. Je suis ravie, pourquoi? Parce que moi-même, je suis issue de l'immigration et je me reconnais dans beaucoup de choses et ça fait du bien. Alors, il y a deux choses que je voudrais souligner. Qu'est-ce qui m'a ravi? D'abord, la phrase dont on a parlé tout à l'heure, c'était « Je suis divisée pour être enrichie ». Et ça donne une perspective très positive. Et je pense qu'on a besoin, surtout nos enfants, les enfants qui sont d'immigration, ils en ont besoin, parce qu'il y a une souffrance. Alors. Et je pense aussi nos étudiants, parce que moi, j'enseigne le français dans le second, au niveau d'arrivant. Et souvent, l'estime de cela est grandement affectée. C'est très dur. Et je travaille beaucoup ça. Alors, je partirai avec cette phrase. Et même maintenant, je me sens très émue lorsque je parle. Parce que je prends la parole. Et je me sens comme ça. Je me dis, si on a une table ronde aussi authentique qui va à l'essentiel, je pense que je peux bien mettre d'afficher mes émotions. Et la deuxième chose que j'apprécie beaucoup, c'est la terminologie à laquelle vous faites allusion, en venant québécois d'origine haïtienne. Et j'apprécie beaucoup ça, et je pense que c'est quelque chose qu'on doit tous retenir, surtout dans l'enseignement aux nouveaux arrivants. Je leur dis toujours, quand mes étudiants arrivent, vous êtes des résidents canadiens, vous êtes québécois, vous êtes canadiens. Vous n'avez pas besoin de dire je suis immigrant, oubliant le mot immigrant. Et j'ai même dit au ministère. L'immigration et les communautés culturelles, utilisez plutôt le terme les personnes issues de l'immigration. Nous sommes tous des personnes. Et je pense que ça a été bien souligné aujourd'hui. Alors je vous en remercie et vraiment j'ai bien saluer toutes les présentations. Merci.
Madame, et Madame.
Fréchette. Alors, moi, je suis d'origine égyptienne. Et j'ai lu le livre d'immeuble de Yacoubien. Je l'ai lu dans les deux langues. Mm-hmm. Vous le connaissez. Mm-hmm. Ma réaction envers la langue arabe, d'abord, en arabe, c'est très éloquent. Puis c'est deux volumes pour un livre français. Mm-hmm. Ça, c'est un. Deuxièmement, donc, j'ai ressenti ça. Mais en lisant le livre en arabe, j'ai entendu les mots. Il ne fallait pas que ça soit idéal. Je me suis imaginée telle personne dans tel quartier que je connais bien et qui parle sur un ton que je reconnais. Donc ma réaction envers cette éloquence et cette expression est tout à fait différente que ma réaction envers l'écriture en français. C'était différent. Le mot que j'acceptais, parce qu'il y avait des mots culturellement qui n'étaient pas trop permis dans la culture égyptienne, mais que j'acceptais mieux quand je disais ça en français qu'en arabe. Imaginez-vous, mais j'entendais ces mots. Mm-hmm. C'est juste pour dire que même dans un livre, mm-hmm. on peut entendre, même si ce n'est pas une pièce de théâtre.
Voilà. Merci pour ces commentaires. Vous avez entendu deux commentaires. Moi, j'ai une question. Ensuite, il y a madame. Est-ce qu'il y a une question? Parce que, Florence, il n'y a pas de question. Qui? Il y avait Fazal. Ma qualité, oui.
Fazal Kamité de l'Université de Montréal. Moi, ce que je retiens des échanges, c'est que peut-être ce qu'il faudrait dire à nos enfants, à nos élèves ou à nos étudiants à l'université, c'est que l'interculturalité peut certes être inspirée par un vécu, mais c'est fondamentalement un projet. Et c'est très important. C'est à construire, il faut le vouloir, il faut le construire. Ça peut être inspiré par un vécu, ça peut être inspiré par tes origines, mais ça doit être un projet. Un projet d'un acteur particulier, d'une personne, à travers une œuvre, mais c'est quelque chose à construire, ça ne l'est pas nécessairement pour l'héritage. C'est quelque chose à construire.
Merci, madame. Merci. Oui, madame. Oui, donc,
moi, j'avais quand même super fini parce que j'ai utilisé la recherche. Donc, on sent que. J'étais intriguée par les propos de madame Fréchette qui, en commençant son intervention, parlait d'écrire des pièces pour des gens de chez nous, entre nous, en fait, pour régler nos affaires entre nous. Mais le Québec, le Canada, c'est un accueil pas mal d'années maintenant. Moi, j'aimerais savoir, au fil des années, au fil de votre écriture, comment, votre vision, comment vous avez vu l'arrivée des personnes migrantes, effectivement, plutôt que par les immigrants. Comment vous les avez vus et les voir dans la rue, parce que moi, ce qui est récent, je suis là, c'est ce qui m'a frappé le plus, et pourtant, j'en suis une, mais passons par deux étapes. Mais je suis arrivée il y a 4 ans, donc on était vraiment à Montréal, c'était le premier temps des futurs. Vous, un petit peu plus avant, comment vous avez pu voir arriver ces gens-là? Comment est-ce que. Est-ce que ça a, à un moment donné, pu avoir une incidence sur vous? Mm-hmm. C'est ça qui me
plaît. Merci de me permettre. On va prendre une question. Je vais demander à la Fréchette. La Fréchette répondra rapidement à la question. Et ensuite, je vais donner à chacun de vous 30 secondes pour un mot de la fin. De manière à ce que nous respections scrupuleusement l'heure, parce que je suis la gardienne du temps et du temps. Alors, parole.
Oui, rapidement, c'est vrai que vous avez raison, Montréal est une ville d'immigration, et je le vois, et comme tout le monde. C'est vrai que dans mes premières pièces, il n'y avait pas tellement de traces de ça. Je ne sais pas trop expliquer pourquoi. Peut-être comme mes sujets étaient tournés plus autour de moi, de mon histoire, etc. Mais je sens qu'il y a une ouverture, que peut-être il a fallu que je passe par le Liban, puis aller passer un mois là-bas. Mais je sens que maintenant, peut-être il y a un regard différent ou une sensibilité différente à ça. C'est tout ce que je peux dire.
Merci, Carole. Alors, deux mots, s'il vous plaît. Monsieur Saint-Éloi.
Mais je reprends, je suis un homme divisé mais enrichi. Et puis je me dis je ne suis pas un immigrant, je suis ce que je veux être. Donc personne aucun douanier ne peut me fixer une identité en disant, vous, Audenay Saint-Éloi, vous êtes un immigrant. Ma grand-mère m'a toujours dit, vous êtes un grand nègre. Donc, je suis toujours en dialogue avec ma grand-mère et puis, donc, je pense que, effectivement, je suis un grand nègre. Donc, finalement, c'est ça.
Moi, je voulais continuer là. Ah, madame, elle est partie. Ah, vous étiez là, ok. Vous étiez penchée, ok. Oui, vous parliez, madame, excusez-moi, je ne vois pas votre nom d'ici, mais vous disiez que puisque vous avez la chance de lire dans les deux langues, que vous avez pu entendre. Mais oui, c'est possible pour le lecteur, mais pour l'auteur, c'est différent parce que l'auteur qui est traduit ne peut pas lire nécessairement son texte dans plusieurs langues. Puis c'est pour ça que je trouvais Madame Fréchette chanceuse parce qu'elle pouvait le voir et puis c'est ça, donc voir sa langue d'écrivain parmi les gens de partout. Mais c'est vrai qu'en littérature comparée, on a beaucoup étudié cette question-là de la traduction des livres, puis de comment le lecteur pouvait se positionner selon ses identités multiples dont nous souffrons tous. Donc, c'est ça. Merci de votre intervention.
Moi, je voudrais juste souligner ce que vous avez dit. J'ai été invitée à l'école La Voix, qui est à Côte des Neiges, 99% d'immigrants. Et j'ai commencé, je me suis présentée comme étant, bon, je suis Kintui et je suis québécoise depuis 32 ans. Et j'ai demandé de faire le tour de classe et que chacun me dise que ça faisait combien de temps qu'ils étaient québécois. Et juste le fait pour eux de se prononcer, je suis québécois depuis 5 mois, depuis 10 mois, et tout ça, ça a tout changé parce qu'à la fin, ils sont venus me voir et ils disent, vous pensez vraiment qu'on peut devenir avocat nous aussi ou est-ce qu'on peut devenir écrivain nous aussi? Donc, je pense que tout à coup, on peut les intégrer à l'intérieur de la famille québécoise, tout simplement en les faisant prononcer ces mots-là de leur propre bouche. Donc oui, je suis d'accord avec vous.
Moi, j'ai un peu en boutade, j'ai insisté sur cette histoire de monoculturel, un peu parce que ça me paraissait un point de différence. Mais je dirais que peut-être la conviction que j'ai développée au fil des années, c'est que la meilleure façon d'être un passeur, c'est de plonger en soi de façon le plus vraie possible, que c'est dans l'humanité de ce qu'on écrit, qu'on est multiculturel, en fait. C'est pas dans l'effort de rejoindre l'autre, c'est dans l'affirmation de soi, mais avec une vérité profonde, que c'est ça qui ouvre la porte à l'autre. Moi, c'est ça qui le laisse entrer.
Merci beaucoup. Alors, merci à nous deux. Ali Bandé avec leur humanité et leur subjectivité, les débats qui vont se poursuivre, bien entendu, durant deux jours. Et merci à tous les participants.